imaginaire collectif et solidaire s'est créé lors de la pandémie. Il a émergé pour lutter contre les injustices sociales accentuées durant la crise sanitaire. Des initiatives d'entraide ont vu le jour et donné consistance à des modes d'auto-organisation. You Are Here souhaite rendre audibles les récits des habitantes invisibilisées de Bruxelles et cartographier ces gestes de résistance qui modèlent une société du prendre soin.
Oui, bonjour, je m'appelle Maïna Youssouf.
Bonsoir, je m'appelle Mohamed Abdel.
Je suis en Belgique depuis le 13 juin 2012.
16 ans que je suis en Belgique.
J'ai encore de la famille ici personnellement.
Moi personnellement, j'ai 2 enfants.
Ça fait 6 mois que je suis dans le centre fermé. 6 mois que je suis à Merckxplas.
Je suis encore fermé de Bruges.
Dans les centres fermés, il y a des sans-papiers, des demandeurs d'asile, des doubles peines. Donc, des gens qui ont été condamnés parfois à 2-3 mois de prison et qui ont souvent des papiers, qui ont la double nationalité en général, qui sont belgo-marocains. Et on leur enlève leur nationalité belge et on les transfère directement en centre fermé pour les expulser. Avant, c'était des majeurs qui sont arrivés en Belgique majeure. Puis, ils ont changé la loi et c'était pour des jeunes qui étaient arrivés à 12 ans. Et maintenant, même ceux qui sont nés en Belgique ont droit à ce genre de double peine.
Je suis au centre fermé du 127 bis. Hier, mercredi matin, j'ai reçu le mail de mon avocat et je voulais transmettre à mon assistant social. J'ai appelé la sécurité. Il y avait une dame qui était devant ma porte, j'ai appelé, elle a ouvert la porte, je lui ai demandé, « Madame, s'il vous plaît, je vais voir mon assistant social. » La dame m'a répondu, « Ton assistant social sera là après-midi. » J'ai dit, « Madame, s'il vous plaît, je dois faire un recours. C'est aujourd'hui le dernier délai. Si mon avocat ne reçoit pas mes dossiers aujourd'hui, ça sera trop tard pour moi. » La dame m'a répondu, « Monsieur, ce n'est pas vous qui décidez, je vous ai dit, il faut attendre jusqu'à après-midi. »
On a une centrale, notre numéro tourne dans les centres fermés et les détenus peuvent nous téléphoner pour poser des questions, pour demander des avis ou pour laisser un témoignage sur les centres fermés. Et on met ça en général sur notre site « Getting the Voice Out ».
La dame voulait fermer la porte. Tant que j'ai fini de parler, moi j'avais un petit téléphone Nokia, j'ai jeté par terre, j'ai dit c'est n'importe quoi. La dame a pris son téléphone pour appeler la sécurité. Il y avait beaucoup de monde qui sont venus.
Il y a des gens qui ont témoigné sur Getting the Voice Out et ça leur a servi pour leur asile ou pour leur libération. Parce que c'est publié et l'Office de l'étranger doit avoir peur de je ne sais pas quoi. Parfois ça sert.
Ils ont pris leur téléphone, ils sont repartis. Après 30 minutes, ils sont revenus avec le directeur du centre. Ils m'ont dit, il vous faut une sanction.
Il y a d'autres témoignages qu'on attend. Il y a comme ça un Érythréen qui a été vraiment torturé dans un cachot. Et ça date d'il y a 2-3 mois. Mais on attend qu'il soit libéré ou qu'il ne subisse plus de représailles pour publier ce témoignage. Mais les témoignages sont toujours tout à fait anonymes, quoi. Sauf si vraiment il y en a qui veulent absolument qu'on donne leur nom.
Ils m'ont dit qu'il doit aller à l'isolement, qu'il va rester là-bas pendant 24 heures. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ils m'ont pris, ils ont envoyé dans la chambre de l'isolement. Ils ont récupéré tout ce que j'avais en main, et dans mes poches, ma ceinture, les chaussures, ils ont tout pris. J'avais ma carte SIM dans ma petite poche. Ils m'ont demandé de les donner ça. J'ai dit non, ça c'est pour moi. Je vais garder ça. Si je trouve un téléphone, je vais mettre pour appeler mon avocat. pour lui dire ce qu'il faut.
Et je crois que j'ajouterais aussi que, évidemment, Getting, le premier truc, c'est de faire sortir la voix des centres et de raconter ce qui se passe à l'intérieur. Mais que quand on discute avec quelqu'un, en fait, et on se retrouve parfois à faire d'autres choses, parfois les avocats, voir un peu s'ils ont des avocats ou pas, si ça se passe bien avec l'avocat, s'assurer qu'en fait, il y a des choses qui sont mises en œuvre pour qu'ils puissent être libérés à un moment donné, quoi.
Le directeur même est venu appeler des hommes. Plus de 7 hommes, ils sont venus me trouver dans la chambre. Il a ordonné à ces gens de me prendre par la force et récupérer la carte SIM et lui donner.
Au niveau des AS, le premier truc que je dis en général, il ne faut pas écouter les assistants sociaux. Parce que pour eux, une assistante sociale, c'est quelqu'un qui est là pour t'aider, quoi. Oui, pour t'aider de retourner dans ton pays. Ce sont pas toutes des AS, elles travaillent pour l'Office de l'étranger, et leur nom officiel est employé de retour. Donc elles sont là pour les faire sortir du pays.
Les 7 hommes, ils sont tombés sur moi, ils m'ont meloté et ils sont marqués sur mon dos.
Je me souviens d'un témoignage d'une personne qui allait être expulsée et qui voulait résister à son expulsion. Et l'assistante sociale lui montrait des vidéos d'expulsion qui s'étaient mal passées. Donc sous escorte, avec des flics violents verbalement et physiquement. Et donc c'était une manière de mettre la pression sur la personne pour que celle-ci retourne volontairement et pour faciliter l'expulsion.
Ils m'ont mêlé des mains par derrière. Ils ont attaché mes 2 pieds. Ils sont ressortis. Des pieds à lever. Les psychotes qu'ils ont mis dans le pied.
Les appels, c'est aussi du soutien. Quand les gens sont enfermés à l'intérieur et qu'ils sont seuls, en fait, c'est pas facile. Et du coup, les appels, ça remonte le moral. C'est aussi en appelant qu'on a les infos sur qu'est-ce qu'on fait concrètement. Par exemple, si on sait qu'il y a une grève de la faim qui se fait dans un centre, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller devant les soutenir? Est-ce qu'on peut aller gueuler en disant qu'ils sont pas tout seuls et qu'on est là?
Après, ils sont revenus encore la 2e fois pour dire que voilà, c'était pas bien attaché. Ils ont attaché 2e fois. Il y avait un monsieur qui a pris mes pieds par derrière, j'étais couché sur le ventre. Il a plié mes pieds pour envoyer vers la tête. Ça me fait mal. Je ne pouvais pas s'asseoir ni faire rien. Après, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai dit, vous avez cassé mon dos.
Et on essaye aussi, à l'occasion, de les mettre en contact l'un avec l'autre dans les différents centres, même si souvent, ils ont des contacts avec leurs camarades de la même nationalité dans les autres centres. Et quand il y a parfois une grosse grève de la faim ou une émeute dans un centre, prévenir les détenus dans d'autres centres pour élargir la lutte éventuellement.
Ils ont couru directement à lever les melottes, à lever les scotch. Ils sont sortis, ils ont fermé la porte. Ils m'ont laissé toute la nuit. Il n'y a pas eu de manger, il n'y a pas eu de boire, ni rien. Il n'y a personne qui est passé.
Mais j'ai de souvenirs d'une grève de la faim importante qui avait commencé, je pense, au 127 bis, et puis qui a continué à Bruges, à Merckx-Place. Mais de ce temps-là, c'était assez différent parce que la direction laissait traîner les grèves de la faim de façon à ce que c'était plus facile de le communiquer aux autres centres. Et donc, tous les centres, à ce moment-là, étaient en grève. Enfin, pas tout le monde, mais des groupes dans tous les centres.
Ils sont venus le lendemain pour me dire que voilà, il peut sortir. Moi, je ne pouvais pas me lever. Ils ont dit qu'il faut que je me lève. J'ai dit, moi, mon dos est cassé, je ne peux pas me lever, ça me fait mal. Ils ont dit que vraiment, comme ils m'ont laissé hier, poussé sur le ventre, j'ai pas bougé, ils ont eu peur peut-être, ils ont appelé une ambulance. L'ambulance m'a conduit à l'hôpital de Villevoort. Là-bas, ils ont fait le radio. Le docteur m'a dit qu'il y a pas les os qui sont cassés. Ils m'ont repris, ils m'ont renvoyé encore dans une autre chambre d'isolement.
Maintenant, ça devient nettement plus difficile parce que dès qu'il y en a un qui parle de grève de la faim, c'est le leader, on le met au cachot. S'il y en a un deuxième, on le met directement au cachot. S'il y en a 10, on envoie la police pour casser le mouvement. Donc c'est le premier jour déjà, c'est fini. La répression a nettement augmenté. Au Caricole, quand c'était très chaud et qu'on y allait beaucoup, ils obligeaient les gardiens à regarder le site Getting the Voice avant de commencer à travailler. Parce que tous les jours, on lançait quelque chose, quoi. Ça devait être en 2007-2008, je pense, au moment où il y avait aussi beaucoup de mouvements pour la régularisation des grèves de la faim à l'extérieur aussi. C'était très chaud et on allait beaucoup au Caricol. On était beaucoup plus actifs quand même. Ben moi, je suis Evelyne, je gère un peu le site Getting et j'essaye de jouer la centrale pour les détenus qui appellent au secours. Avant, je faisais plein d'autres choses, mais vu mes restrictions dues à l'âge, je ne fais plus que ça. Et je suis à sur Getting depuis le début, depuis 10 ans, 15 ans.
Moi, c'est Flo, je suis dans Getting depuis 5-6 ans. Je prends de temps en temps des appels. Et sinon, je soutiens la lutte dans les centres fermés et de manière générale contre les frontières aussi, de plein d'autres manières différentes.
On n'est pas très nombreux, une dizaine, donc 5-6 qui sont très actifs et d'autres qui font de temps en temps. Rémunérer, c'est quoi ça? Rien du tout, hein. On a deux comptes, un pour financer les luttes et un pour financer les charges téléphoniques. Nous, on est bénévoles. Et on a besoin de traducteurs, de nouveaux téléphonistes, d'avocats, d'interprètes.
Donc c'est un témoignage du 1er avril 2020. La semaine dernière, un homme avait 39 de fièvre à Merck-Place. Ils l'ont mis 5 jours au bloc 5, bloc des cachots, alors qu'il n'y a même pas de table pour manger ni de ventilateur. Ils l'ont libéré du cachot et remis avec les autres sans lui faire de test. Dans le bloc 3 de Merck-Place, un homme nous dit « Il n'y a pas de distance d'1m50. L'eau des douches est froide. Il n'y a pas de savon pour se laver. On est 4 par cellule. Les gardiens ne respectent pas la distance non plus. Ils ne portent pas de masque. » Aujourd'hui, à l'étage du bloc 3, ils ont contrôlé les gens en leur prenant tous leurs vêtements, même leurs slips, pour un soi-disant vol de médicaments, mais ils n'ont rien trouvé.
On a eu les premiers au secours de certains détenus à Merck-Place. Dans les centres, ils n'ont que des petits téléphones Nokia, mais il y a des petits malins qui arrivent à faire rentrer des smartphones. Et donc, on a eu des vidéos et on a appris qu'il y avait pas de masque, aucune mesure sanitaire. On a eu un bon journaliste qui a fait tourner les informations. Suite à ce reportage, quand il fait beaucoup de bruit dans le soir, dans le Morgen, dans plusieurs journaux, il y a une association qui est allée contrôler et qui a dit qu'il fallait pratiquer la mesure et qu'il ne pouvait pas rester 300 dans ce centre. Et alors, petit à petit, beaucoup ont été libérés. Et ils ont gardé principalement les gens de double peine. Les centres sont restés un bon moment en vie. Il ne fait que commencer à se re-remplir là maintenant. Mais ça a été jusqu'il y a un mois ou deux, c'était 300 personnes maximum sur les 700 habituels. Maximum, il y a eu des périodes où ils étaient une centaine. La majorité des gens qui ont été libérés ont reçu un ordre de quitter le territoire, n'est-ce pas? Et donc, on tourne avec leur sésame, ordre de quitter le territoire, chez les amis, dans la famille, ou en rue. Il y en a évidemment qui se sont retrouvés en rue aussi, quoi.
Il y a une personne qui était détenue, je pense, au 127, qui nous disait « Non, mais moi, ça va, là, pour le moment, je peux rester. » Parce qu'en fait, il n'y avait pas de plan à l'extérieur et qu'il avait beaucoup justement de témoignages de personnes qui avaient été libérées, qui disaient « mais en fait, c'est un peu la merde, on se retrouve effectivement à la rue ». Et puis avec l'ambiance Covid, c'était quand même pas évident à un moment, au début du confinement. Je crois qu'aussi, ce qui était compliqué pour les personnes qui restaient à l'intérieur, c'est un sentiment d'injustice et d'incompréhension sur le « pourquoi eux sont libres, pourquoi pas moi ?». Et je pense en fait à la situation des femmes, je trouve qu'elle était assez spécifique parce qu'elles étaient hyper isolées. Je pense à Holzbeck, où elles étaient vraiment très peu, genre 3-4. On avait l'impression qu'elles étaient non seulement isolées, parce que très peu dans le centre, mais en plus de ça, isolées entre elles, donc pas moyen de communiquer et en fait pas moyen de s'organiser entre elles et de se soutenir.
Au début, c'était pas de visite du tout, puis le plexiglas est au goutte à goutte, puis un moment un peu plus, mais c'était toujours la même personne qui pouvait aller visiter, pas d'autres. Je pense que c'est un peu la même chose qu'en prison, qu'ils ont suivi les règles de la prison. Ils étaient très traumatisés par ça, parce que dans ces prisonniers, il y a des prisonniers qui ont femmes, enfants, etc. Et donc ça, c'était vraiment très pénible, et pour la femme, et pour les enfants, et pour le détenu lui-même.
Ce qui était pénible aussi, c'est que moi, j'ai fait une seule visite pendant le Covid. Et en fait, ce qui est malaisant, c'est que vu que les visites étaient restreintes, la salle était vide, et en fait, il n'y avait pas d'autres bruits pour brouiller justement notre conversation, et c'était... Je crois que si on avait su, on aurait continué à discuter par téléphone plutôt que d'être épillé par un maton qui était à une table à côté de nous.
Dès que tu rentres dans le centre, on te met en isolation pendant une dizaine de jours. Et puis on fait un test. S'il est négatif, tu peux rejoindre les autres blocs. S'il est positif, on le garde en isolation. Et c'est toujours comme ça maintenant. Ce qui est extrêmement compliqué parce que ils ne connaissent pas notre numéro puisqu'ils sont isolés. Ils peuvent pas nous téléphoner. Et c'est une manière, par l'Office d'étrangers, je suppose, d'éviter qu'ils fassent un recours à leur arrestation. Donc, dans les 5 ou 10 jours, on peut brancher un avocat et faire un recours à leur arrestation parce qu'elle est illégale, parce que manque de traducteur ou d'autres choses. Très souvent, on arrive à gagner à ce moment-là. Voilà. Et ici, on n'a pas de contact avec eux, donc on ne sait pas faire de recours contre les arrestations. Et donc, ils sont partis pour 2 mois minimum.
Déjà, en temps normal, c'est problématique. Ils n'ont pas accès, ils n'ont pas forcément accès à leurs droits. Je trouve qu'il y a un systématisme d'utiliser le Covid comme étant une excuse pour justifier certaines pratiques.
Hello, my name is Ayoub. I'm from.
Mon nom est Ayoub.
Tunisia.
Je viens de Tunisie.
I was doing some sport. I was running at 8 o'clock morning. Then two cops they stopped me because I had.
J'étais occupé à faire du jogging vers 8 heures du matin lorsque 2 policiers me sont tombés dessus parce que je n'avais pas de masque.
So I told them that I'm running. It's not important.
Je leur ai expliqué que je courais et que c'était donc pas nécessaire de porter un masque. Ils m'ont dit qu'au contraire, il fallait absolument en porter un, donc ils m'ont arrêté, ils m'ont obligé à prendre mes empreintes digitales. Et ensuite, ils m'ont laissé au poste pendant 3 heures, puis ils m'ont amené ici, et ça fait maintenant 4 mois. Certaines personnes qui sont avec moi ici sont là depuis 1 an ou plus, et on se demande vraiment ce qu'ils vont faire de nous. Ils n'ont pas vraiment l'air de savoir eux-mêmes.
Sami Mahdi a dit officiellement qu'une expulsion n'est pas un voyage. Donc c'est possible. Le problème, c'est que les expulsions sont quasi impossibles. Les compagnies aériennes et les pays de destination exigent des tests Covid. Et donc, on a tout un groupe de Tunisiens qui sont là depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois, et qui refusent ces tests. Donc, ils sont jamais expulsés, mais ils sont gardés dans les centres fermés. En France, si tu refuses un test dans le CRA, tu es condamné, tu vas en prison. Ici, pas encore, mais dernièrement, on a eu un Tunisien... Et la police est venue dans le centre pour lui faire un test PCR de force. Et puis, ils ont essayé de l'expulser, mais il a résisté à son expulsion. Il y a 1 mois ou 2, France du crack P nous racontait que Votem, il faisait des tests en disant qu'il faut les transférer ou qu'il faut les changer d'aile ou des choses comme ça. Et puis, en rentrant de leur test, ils ont leur ticket d'avion, quoi. Et 2 jours après, ils sont expulsés avec le test Covid négatif. Une anecdote aussi dernièrement pour les Tunisiens Merzplatz qui refusent systématiquement le test PCR. Maintenant, on leur a proposé un vaccin qu'ils ont évidemment aussi systématiquement refusé. Quoi. Ils sont bien conscients que s'ils sont vaccinés, c'est juste un laissez-passer pour être expulsés. Quoi. Mais justement, il y a le témoignage du 127 bis audio où il parle d'un détenu, un érythréen qui avait été testé positif, qui a été quand même ramené dans l'aile avec les autres, avec son papier testé positif. Du coup, les détenus sont très fort fâchés en disant « ça ne va pas ». Là-dessus, on a repris le mec et mis en isolation pour l'expulser vers l'Allemagne. En Allemagne, avec son test Covid positif, ils l'ont refusé, ils l'ont ramené au 127 bis. Et à ce moment-là, les détenus ont fait une grève de la faim, discuté avec la directrice, etc.
Bonsoir, moi c'est Abdel. Ça fait 6 mois que je suis à Merckx-Place. L'office d'étranger, je ne veux pas me relâcher. La frontière, elle est fermée. Maintenant, on a commencé un grève de faim. On a essayé de parler avec la directrice. La directrice est toujours occupée. On ne sait pas les choses, elles vont rester jusqu'à quand.
Pour les rassemblements, en tout cas devant les centres, il y a eu un rassemblement à Stenock où la police a interpellé les personnes lorsqu'elles étaient sur le départ, donc même plus devant le centre, en disant qu'en fait les rassemblements, c'était 4 et les personnes étaient 5. Il faut savoir que ces personnes-là avaient quand même pris les mesures nécessaires, c'est-à-dire port du masque, elles étaient en vélo, avec une certaine distanciation, donc il y avait quand même une vigilance à pouvoir rentrer dans la case des règles pour éviter d'avoir des soucis et pour continuer à pouvoir soutenir. Il y a eu des fouilles aussi, des fouilles au corps, des fouilles au sac. Il y a eu des combis qui sont arrivés. Et à côté de ça, ce qui est absurde, c'est que Stenock, c'est vraiment situé à côté du halage pour les vélos. Et il y avait des groupes de 10-15 cyclistes qui passaient devant les personnes pendant qu'elles se faisaient contrôler. C'était complètement absurde. Et là, on a vraiment réalisé que ça leur servait juste d'excuse. Tout ça pour 5 personnes devant un centre et qui ont reçu des amendes Covid, alors que c'était clairement pas ça. C'est une répression par rapport au mouvement de soutien et de lutte pour les personnes qui sont enfermées. Des réflexions qu'on a eues aussi dans le collectif sur comment continuer à les soutenir en face alors qu'on peut plus se rassembler et qu'en fait là ils ont plus que jamais besoin que de sentir qu'en fait on les a pas oubliés et du coup ça a demandé de la créativité. Il y a des groupes de personnes qui sont extérieures à Getting qui se sont dit tiens on ferait bien quelque chose contre les centres fermés. Ou en tout cas pour soutenir les personnes à l'intérieur. Et donc du coup, il y a eu tout un mouvement pendant une semaine où plusieurs groupes de personnes allaient devant les centres fermés pour crier leur soutien. Donc il y a eu devant Stenockerzell. Et il y a eu aussi des groupes qui ont été à Holzbeck. Il y a des groupes qui ont été aussi à Merckx-Place. Du coup, là, c'était aussi pour soutenir en fait la grève de la faim des personnes qui étaient enfermées à l'intérieur.
On a publié ça sur Unibedia et sur Getting. Ce que notre détenu disait, c'est qu'il n'avait plus accès au site Getting the Voice Out quand il pouvait aller sur Internet et que quand il téléphonait à les droits de l'homme ou à nous, c'était un répondeur qui disait « vous n'avez pas accès à ce numéro ». On a publié ça sur Getting the Voice Out et du coup, le lendemain, ils avaient de nouveau accès. Il y a quand même eu suite à ça plusieurs transferts, plusieurs cachots, un Palestinien, par exemple, qui a été maltraité et envoyé dans un autre centre, et qui y est toujours. Quand ils vont dans le centre, moi qui ne sais plus marcher, j'ai le téléphone. Je reçois plein de coups de téléphone qui disent juste merci, merci, merci. Je savais pas, je croyais que la Belgique était contre nous, mais tout le monde n'est pas contre nous. On reçoit beaucoup de messages comme ça et ça leur fait énormément plaisir de voir des gens qui gueulent devant le centre fermé. Ça les encourage à résister, quoi, à continuer à résister, sachant qu'il y a des gens à l'extérieur qui sont là pour eux. Je crois que c'est très efficace.
Les passeurs de voix. Avec la voix de
Elias.
Et des extraits des témoignages publiés sur le site Getting the Voice Out.